Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, on est toujours ensemble jusqu'à 20h dans le débat du Club des Idées. Ce soir, on s'intéresse donc à la rentrée scolaire. Cap sur lundi matin à partir de 8h30. Quelle rentrée? Dans quelles conditions? Avec quel protocole? Le ministre de l'Éducation nationale l'a présenté aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a débat. Un préavis de grève a notamment été déposé par le SNES-FSU, premier syndicat du secondaire, pour la période du 2 au 7 novembre. La sécurité des élèves et des personnels ne sera pas garantie, dit le syndicat. D'abord, Gilles Langlois, c'est vrai que je ne vous ai pas interrogé là-dessus tout à l'heure. Vous êtes secrétaire national d'un syndicat enseignant également, SEUNSA, et directeur d'une école primaire à Paris. Est-ce que vous partagez, en tant que d'abord directeur d'école et puis en tant que représentant syndical, cet appel à la grève?
Alors, on partage la préoccupation des collègues qui sont inquiets parce qu'il y a des motifs légitimes d'inquiétude. Faire un appel à la grève aujourd'hui nous paraissait pas raisonnable. Je pense qu'on a beaucoup d'éléments qui sont complexes à gérer, tant pour les élèves, les familles que les personnels, et donc il n'était pas nécessaire de rajouter de l'inquiétude et de la pression en ce moment.
Je voudrais partager l'inquiétude, parce que là on parle du secondaire, c'est-à-dire tout ce qui est après la primaire, hein, le collège, le lycée, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une inquiétude plus forte que pour le primaire, eu égard à ce qui vient d'être dit par la professeure qui nous a expliqué que chez les jeunes enfants, il y avait peu de risques de contamination, mais ça n'est pas le cas, je crois, vous nous répondrez tout à l'heure, professeur, sur le secondaire, c'est-à-dire les jeunes ados. Je voudrais partager avec vous la réaction et la colère un peu, et l'inquiétude de Frédéric Rollet, professeur de lettres. Il est secrétaire général, justement, du syndicat SNES-FSU, qui appelle à cette grève.
Le ministère prétend avoir renforcé le protocole sanitaire. Ce protocole n'est pas renforcé. Il n'y a véritablement rien de très concret. Le SNES demande au ministre de l'Éducation nationale, d'une part, que les équipes puissent discuter, y compris avec les chefs d'établissement, des questions donc sanitaires, et puis évidemment de renforcer le nombre d'adultes présents dans les établissements, notamment les assistants d'éducation. On a des collègues qui étaient déjà très fatigués avant les congés. Les remontées que nous avons pour l'instant montrent qu'il y a une très grande colère vis-à-vis de l'institution.
Alors, sur un plan sanitaire, professeur Anne-Claude Crémieux, est-ce que les professeurs, avec le protocole que l'on sait, qui a été édicté par le ministre de l'Éducation nationale, alors, ce protocole, c'est les grandes lignes. Après, c'est un peu à chacun de se débrouiller, c'est ça qui pose question, parce que quand on habite et qu'on est à la campagne, c'est plus facile dans des écoles qui sont peut-être plus grandes, plus ouvertes, avec des cours de récréation plus importantes, que dans les villes, et notamment à Paris, où les établissements scolaires sont un peu riquiqui les uns sur les autres. Mais est-ce que les profs, de ce que vous en voyez, de ce que vous en percevez, seront en sécurité au contact des ados de collèges et lycées? Et inversement, alors, d'ailleurs.
Effectivement, les adolescents, en termes de transmission, se comportent plus comme des jeunes adultes. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas ce qu'on trouve chez des jeunes enfants, des transmissions qui sont plus faibles que dans la population générale. Mais il y a deux remarques. D'abord, on est assez frappé dans l'ensemble des pays, que ce soit les États-Unis, l'Australie, etc., qui ont ouvert leurs écoles, y compris à des moments où la circulation du virus était assez forte. Finalement, il y a eu relativement peu de clusters, y compris dans les lycées. C'est quelque chose que tout le monde a remarqué.
Très très bonne nouvelle, ça, professeur. Ça veut dire que l'ouverture des établissements scolaires, 12 millions d'enfants quand même, ça ne sera pas un frein à faire baisser la circulation du virus.
À ce stade, voilà ce qu'on observe et voilà ce que les pays étrangers ont observé. Néanmoins, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on arrive, vous le savez, à un taux de circulation du virus qui est très élevé. Donc, à ce taux-là, on ne peut rien garantir. Et c'est vrai qu'on va voir ce qui va se passer. Mais je crois que toute la communauté scientifique internationale s'attendait clairement à l'ouverture des lycées et des écoles, à ce qu'il y ait beaucoup plus de transmission. Et ça, c'est vraiment une réalité.
Alors, il y avait un enjeu, évidemment, scolaire aussi, Gilles Langlois, et puis après on entendra Stéphane Clerget, pédopsychiatre, sur cet enjeu scolaire, mais c'est vrai qu'il y avait un enjeu scolaire de décrochage aussi. C'est ce qui est apparu pendant la première période de confinement au printemps dernier. Je crois qu'il y avait entre 6 à 10% des élèves du second degré qui simplement avaient pu être suivis, et il y avait des milliers d'enfants qui n'étaient pas réapparus sur les listes scolaires à l'issue du premier confinement. Certains sont revenus par la suite à la rentrée de septembre, mais on a perdu beaucoup, beaucoup d'enfants.
Tout à fait, on a un véritable enjeu. Hein. On sait bien que c'était les élèves qui en avaient le plus besoin,
oui.
Qu'il a été le plus difficile d'aller chercher. Et pourtant, il y a eu beaucoup d'énergie dépensée par les professeurs à ce sujet-là. Donc, ça fait vraiment... je pense qu'il faut bien envisager que, oui, les professeurs sont inquiets. Ils savent bien qu'ils sont en première ligne par rapport... à la situation actuelle et que c'est difficile pour beaucoup d'entre eux.
Mais il va être applicable quand même ce protocole parce que ouvrir les fenêtres, bon, c'est bien toutes les deux heures, ok.
Alors,
mais la cantine, c'est une cantine. Faire des récréations alternées, c'est pas toujours facile. Il y avait l'idée à un moment de faire des demi-classes qui n'a pas été retenue par le gouvernement dans son protocole. Votre avis ?
Alors, plusieurs choses. Je pense qu'on sait bien que les mesures, elles ne vont pas immuniser contre tout risque. Et ça, les personnels le savent bien. L'important, c'est de mettre en œuvre le maximum de ce qu'il est possible de faire. L'autre chose importante, c'est que le ministre a bien rappelé, et ça, c'était un point qu'on avait demandé, que pour les personnes qui étaient vulnérables, ils aient la possibilité d'être en télétravail. C'est-à-dire que les personnels les plus fragiles ne seront pas exposés au risque. Ensuite, comme vous le dites très bien, on n'est pas dans une situation où on peut être rassuré à 100% sur la sécurité des enseignants. Les enseignants le savent bien et ils savent qu'ils sont en première ligne dans cette période.
Alors justement, un petit mot Stéphane Clerget, parce qu'on parle beaucoup des enfants sur le ce que ça peut susciter comme troubles psychosociaux notamment. Vous êtes pédopsychiatre et praticien à l'hôpital de Cergy-Pontoise, mais on parle peu des enseignants et des profs. Et c'est vrai que moi j'en ai vu, j'ai des enfants, j'en ai plein autour de moi, des instituteurs et des profs qui sont très inquiets. C'est-à-dire qu'au moment où on met le pays à l'arrêt parce qu'on dit la circulation du virus est importante et il y a un risque important pour les personnes vulnérables, mais pas que, ben eux on leur demande d'aller travailler. Donc est-ce que ça aussi ça représente une approche particulière de la part du personnel enseignant.
Oui,
qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les rassurer?
On peut déjà les féliciter de travailler, d'accepter d'être présents, comme on félicite les soignants, comme on félicite aussi les forces de l'ordre, les pompiers. C'est-à-dire, toutes les professions de service, finalement, sont aux avant-postes. Hein, donc, il faut évidemment les féliciter et faire tout pour les protéger. Alors, c'est vrai qu'on parle du décrochage. Il y a eu le décrochage des élèves, et notamment des collégiens, d'ailleurs, j'ai remarqué, en tout cas, dans ma pratique. Mais il y a eu aussi un décrochage des professeurs. C'est-à-dire que moi, de mon côté, j'ai eu beaucoup de collégiens qui disaient que pendant le premier confinement, ils n'avaient pas du tout accès aux cours et qu'il y a des profs qui n'ont pas pu jouer le jeu parce qu'ils n'avaient pas le matériel informatique ou qui n'ont pas vraiment voulu jouer le jeu. Donc, il y a aussi une responsabilisation nécessaire. Et là, dans ces cas-là, on voit bien que ce n'est pas la peur du virus.
Oui.
C'est aussi un investissement personnel. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une grande conscience professionnelle et d'autres qui en ont moins.
Comme dans tous les métiers. Donc, il y a des profs qui ont abandonné leurs élèves. C'est ce que vous nous dites.
C'est ce que moi, j'ai entendu. Et c'est aussi ce que j'ai lu. C'est une réalité. Il ne faut pas le masquer. Il y a évidemment des professeurs qui ont très bien joué le jeu et d'autres non.
Bien.
Donc, là, aujourd'hui, les professeurs, ils ne seront jamais autant protégés que maintenant puisque les enfants ont des masques. Ce qui n'était pas le cas quand on a repris l'école après le premier confinement.
Bien, Gilles Langlois vous répondrait dans quelques secondes. C'est vrai que c'est une minorité sans doute, mais c'est un élément qui a existé. 19h39, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, 19h40, on est toujours ensemble dans le débat du Club des Idées. Et ce soir, on s'intéresse à la rentrée scolaire après la présentation par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, du protocole sanitaire qui sera en place pour la reprise des 12 millions, un peu plus même d'élèves qui vont reprendre le chemin de l'école à partir de lundi matin, 8h30 notamment. Tiens, je vous propose justement d'écouter le ministre de l'Éducation.
Premièrement, n'oublions pas que nos élèves, quand ils ne sont pas à l'école, ils font d'autres choses, qui peuvent parfois par leur pratique se contaminer davantage que dans le milieu scolaire, où au moins il y a des règles qui sont respectées. Le deuxième, c'est qu'il y a aussi d'autres sujets que le Covid, et moi je veux éviter le décrochage scolaire. Il pourrait y avoir des dégâts psychologiques, sociaux...
Voilà, la socialisation, c'est important, ça, on n'en a pas encore parlé, Stéphane Clerget, vous êtes pédopsychiatre et praticien à l'hôpital de Cergy-Pontoise. Le ministre de l'Éducation le dit clairement, on a parlé tout à l'heure du décrochage scolaire, c'est une réalité, on a donné les chiffres, hein, 5% d'enfants et d'adolescents qui ont disparu des radars à l'issue du confinement, et notamment les plus fragiles, mais il y a aussi l'idée de socialisation. Couper un enfant d'un cercle et de ses amis notamment, ça peut avoir un impact.
Oui, plus les enfants sont jeunes, plus ils apprennent beaucoup avec leur père, PAIR. Hein. Donc ils apprennent à se tenir aussi par...
Avec leur père aussi, j'espère.
Avec et leur R-E. Père aussi, quand le père est là. Et ils apprennent aussi par imitation. Donc on apprend beaucoup avec les enfants, quel que soit l'âge, quand on est soi-même un enfant. Donc la socialisation est fondamentale, mais il y a aussi l'éducation. C'est-à-dire qu'on le sait, il y a eu la lettre... qui va être lue, la lettre du ministre, là, de l'ancien ministre qui va être lue aux enseignants. On sait que l'éducation fait partie finalement de la mission aussi de l'école. Donc les enfants, ils sont aussi éduqués. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas éduqués à la maison, mais quand les parents travaillent, c'est plus difficile de les...
Je profite pour aborder cette thématique avec vous. C'est vrai que c'est un autre élément d'inquiétude, la menace terroriste qui plane aussi sur les écoles, avec cet hommage décidé par le ministre de l'Éducation nationale, Blanquer, qui sera rendu au professeur Samuel Paty. On parle d'une minute de silence aux alentours d'11h, dès la primaire, pas pour les maternelles évidemment, mais dès la primaire en CP. Le symbole est important, on le sait tous. Mais pour des petites filles ou des petits bonhommes de 7 ans, est-ce que ça n'est pas un peu tout de même de parler de ça et de... D'abord, comment les profs vont en parler, comment les instituts vont en parler avec les enfants?
Je ne sais pas si on leur a donné des consignes. En tout cas, je suis d'accord avec vous. Si 7 ans, c'est un peu tôt, c'est plus pour les grands enfants. Ce qu'on peut dire...
Oui, mais ça va susciter des interrogations, des discussions dans la cour de récré entre le CM2, pardon d'être concret, mais entre le CM2 qui sait de quoi il s'agit... Et puis le petit CP là, qui vient de rentrer, qui a 7 ans, moi j'imagine ma fille, je n'en ai pas parlé, je ne sais pas comment elle va l'apprendre et comment ça va être raconté dans la cour de récré tout cela, et par les profs.
Votre fille va apprendre qu'il y a un professeur qui a été tué et qui a été décapité. Elle ne va pas forcément savoir où c'est, on ne va pas lui préciser.
Déjà en soi c'est une horreur qui peut avoir un impact énorme sur sa construction.
Oui, bien sûr, une horreur comme quand on apprend la Révolution française aussi aux enfants, la décapitation. Sauf que là c'est évidemment beaucoup plus près d'eux. Et ils peuvent imaginer, évidemment, que c'est quelque chose qui peut arriver dans leur école. Donc c'est pour ça qu'il faut bien leur dire que c'est quelque chose qui s'est produit, qui est passé, qui n'était pas dans leur école, et que le coupable a été tué, puisque c'est la réalité, par la police, parce qu'il a voulu aussi attaquer les policiers.
C'est un moment que vous redoutez, Gilles Langlois, secrétaire national du syndicat des enseignants.
C'est un moment qui est compliqué, parce que non seulement il y a l'horreur de cet événement, oui. Nous venons d'apprendre en plus qu'il n'était pas possible d'avoir un temps pour que les enseignants puissent se retrouver et préparer ce moment-là. Donc les enseignants vont arriver en classe dès lundi, 8h, 8h30 selon les établissements, et ils vont être confrontés à cette difficulté-là. C'est un moment effectivement qui est très compliqué, y compris pour les élèves, parce qu'on ne sait pas ce que les élèves
mais
ont entendu.
Mais vous, votre avis, ça n'est pas pardon d'insister, mais ça n'est pas un peu tôt pour des tout petits enfants d'en parler si jeunes comme ça?
Je pense que de toute façon, 7 minutes de silence va être compliquée à certains endroits pour qu'elle prenne sens. Peut-être aussi au niveau de certains territoires, dans sa réalisation. Ce qu'il est important, c'est de travailler l'appropriation des valeurs. Il y a un vrai enjeu pour l'école, un enjeu qui va être travaillé, qui doit être travaillé à partir de la formation pour les personnels et qui doit se travailler sur du long terme. Ce n'est pas en une matinée, sur un moment et une minute qu'on va faire évoluer en fait les élèves. Il y a des moments qui auraient été plus appropriés. Nous, c'est ce qu'on avait plaidé. Notamment, on a une journée tous les 9 décembre, une journée de la laïcité. C'était ces moments-là qui convenaient de préparer pleinement. Et c'est vrai que le contexte actuel est particulièrement psychogène, puisqu'il y a eu cet événement qui n'a pas pu être travaillé, qui date de 15 jours. On ne sait pas comment ça a été abordé par les familles avec leurs élèves. Oui. Donc,
c'était
beaucoup d'incertitudes.
Le jour du début des vacances, le vendredi soir.
Donc, il n'y a pas eu de retour, ni entre les personnels, ni entre les élèves. Ensuite, on vient avec un deuxième élément particulièrement anxiogène, qui est celui de ce nouveau protocole, avec une montée de l'épidémie et des éléments d'inquiétude supplémentaires. Et puis, on voit bien que les événements qui sont passés hier à Nice viennent en fait télescoper tout ça et rajouter de l'anxiété pour tout le monde. Donc, je crois que la priorité...
Et des militaires qui vont être présents devant les écoles aussi.
Exactement.
Alors, c'est déjà le cas. On s'est habitué à ces militaires de Sentinelle présents dans le paysage urbain et le paysage français. Mais là, ils vont être stationnés devant les écoles, a priori.
C'est pour ça que je pense que la responsabilité de tous, c'est de permettre à chacun de s'emparer des différents moments, mais en s'adaptant à son public et en ne voulant pas précipiter ni brusquer les choses.
Vous avez un mot de commentaire, professeur Anne-Claude Crémieux, sur cette
non, effectivement, je trouve que
contexte général.
Les professeurs, les directeurs, les médecins scolaires sont confrontés à une double difficulté aujourd'hui. Et je dois dire que je les félicite d'affronter Tout ça, je comprends la difficulté et l'angoisse que ça peut générer de faire passer ces messages aux enfants. L'impression que nous avons du côté sanitaire, encore une fois, c'est l'incroyable capacité d'adaptation de l'être humain au danger. Et j'imagine que chez les enfants, c'est une qualité particulière, mais je dois dire que je tiens à m'associer aux difficultés que rencontre le personnel soignant, le personnel enseignant dans ces situations.
Et le personnel soignant aussi. On continue d'en parler justement de la dimension sanitaire avec cette épidémie et cette rentrée scolaire. À tout de suite, 19h47.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h50, on est ensemble jusqu'à 20h avec le débat du Club des Idées. Ce soir, on s'intéresse à la rentrée scolaire. Lundi matin, à partir de 8h30 ou d'un peu plus tard, selon les heures de rentrée des uns et des autres, la rentrée des classes, ce sera en mode confiné, avec la grande différence par rapport au printemps dernier. C'est vrai que ce sont les écoles, collèges et lycées qui resteront ouverts, avec plus de 12 millions d'enfants, d'élèves, des enseignants également, qui vont se croiser, des parents aussi, qui vont se croiser le matin pour emmener leurs enfants en période, encore une fois, de confinement. Alors, on en parle ce soir et on va notamment parler d'une mesure qui a été décidée par le ministre de l'Éducation nationale, professeur Anne-Claude Crémieux. Vous êtes professeur en maladie infectieuse à l'hôpital Saint-Louis à Paris et membre de l'Académie de médecine. C'est le port du masque. Le port du masque dès l'âge de 6 ans, est-ce que ça fait sens, j'allais dire, du point de vue de la protection? Alors, eu égard à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les enfants de moins de 11 ans avaient une contamination moins forte que les enfants plus âgés et par définition les adultes, c'est en fait plus pour protéger les adultes que les enfants eux-mêmes.
Alors, on dit moins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transmission entre enfants et d'enfants à adultes. Le masque fait sens parce que nous avons là encore une accumulation de données scientifiques qui montrent que le masque porté par tous dans un lieu clos, avec la distance sociale, avec l'aération, est très efficace pour lutter contre la transmission du virus de personne à personne.
C'est d'ailleurs, vrai pardon que professeur, mais les dernières études, dites-moi si je me trompe, montrent que la contamination se passe beaucoup plus par aérosol que par le toucher des matières
par les gouttelettes.
Par les gouttelettes, merci.
Eh bien, le masque est aussi efficace si on regarde les propriétés filtrantes du masque, non seulement il arrête les gouttelettes, mais il arrête une partie de micro-particules qui constituent les aérosols. Comme il n'est pas complètement protecteur vis-à-vis des aérosols, on doit l'associer à une autre recommandation forte, c'est l'aération. L'aération, son objectif, l'aération régulière des lieux clos, son objectif, c'est de disperser ces aérosols.
Et ça a un vrai effet.
Et finalement, on le voit très bien dans nos hôpitaux, puisque nous sommes confrontés à ça en permanence. Et n'oubliez pas que dans les hôpitaux, c'est un lieu où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'interactions. Nous avons des interactions avec les patients, nous avons des interactions sans cesse dans une équipe soignante. Eh bien, quand on porte le masque systématiquement, quand on s'assit, parce qu'on est obligé de travailler ensemble dans des staffs, quand on aère régulièrement et quand tout le monde porte le masque, et là j'insiste, il faut que tout le monde porte le masque et en permanence. On ne doit pas l'enlever pour boire, on ne doit pas l'enlever pour manger quand on est dans la pièce avec d'autres gens, parce que ça diminue l'efficacité.
Et question précise, professeur, il faut combien de masques par jour pour un enfant?
Alors, pour ce qui est des adultes, ce qu'on recommande, c'est qu'au bout de au fond, 4-5 heures, et surtout si le masque devient un peu humide, on le change. Et je crois que là, pour les enfants, ça va être un peu la même chose. Il ne faut pas non plus viser des situations d'extrême perfection. Il faut qu'il y ait une certaine adaptation à la réalité. Mais encore une fois, le masque, c'est vraiment un outil réel de protection. Et dans le cas présent, effectivement, l'avantage, c'est que non seulement ça protège les enfants qui peuvent se faire infecter par un adulte, mais ça protège aussi, évidemment, l'enseignant.
Gilles Langlois, une dernière question sur le protocole sanitaire à partir de lundi. Secrétaire national du syndicat des enseignants SU-UNSA. À la cantine, il faudra respecter un mètre entre chaque élève. On comprend aisément pourquoi. Est-ce qu'on parviendra à le faire, ça?
Ça dépendra des endroits. on ne peut pas avoir une réponse. Ce qui est bien dit dans le protocole, c'est partout où c'est possible. Donc, l'idée bien d'organiser avec des impacts sur les emplois du temps pour permettre des amplitudes horaires sur le temps de restauration scolaire qui soient plus importants avec tous les effets que ça va avoir, y compris sur les emplois du temps des professeurs et qui ne sont pas négligeables. Mais on sait bien que ça peut être compliqué dans certains lieux et selon les modalités.
Bien. Professeur Crémieux, il nous reste quelques instants. Je voudrais qu'on termine sur ce qui nous attend pour les prochaines semaines. Le gouvernement a dit 4 semaines au moins de reconfinement. Est-ce que, d'abord, c'est une décision que vous attendiez, que vous espériez, ce qui a été décidé par le président de la République ? Et est-ce que cette mise en application, elle peut stopper rapidement la progression du virus ?
Je crois que, effectivement, nous attendions cette décision à partir du moment où le couvre-feu s'avérait inefficace. Tout le monde l'a vu, la circulation du virus augmente de façon très importante, l'impact sanitaire aussi. Il fallait évidemment prendre des décisions fortes. Vous me posez une question difficile, car on est dans une certaine situation d'incertitude. Nous savons qu'un confinement complet, comme celui que nous avons connu en mars, est efficace. Et ça, ça a été efficace dans beaucoup de pays.
Et là, il est incomplet, selon vous ?
Non, mais toute situation qui est, je dirais, un petit peu intermédiaire, non, on l'a vu, il y a des différences, eh bien, forcément, on est dans une sorte d'incertitude. Le président, d'ailleurs, l'a bien noté en disant « nous verrons dans 10 jours, dans 14 jours, ce que ça va donner ». Et c'est vrai, aujourd'hui, cette épidémie nous oblige à fonctionner comme ça, c'est-à-dire nous adapter en permanence à la circulation.
Mais professeur, on va pas se raconter de bobard. 4 semaines, ça sera forcément plus.
L'impression qu'on peut avoir, c'est que effectivement, il a fallu 3 semaines pour avoir un impact dans le premier confinement, et par conséquent, 4 semaines risquent d'être un peu juste pour arriver à l'objectif,
merci,
c'est-à-dire une réduction massive du nombre de contaminations.
Honnêteté, c'est vrai qu'il faut aussi préparer les esprits.
Un dernier conseil pratique pour les parents, il existe des masques maintenant 600 ans qu'on peut trouver en grande surface ou en pharmacie, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc un masque pour le matin, un masque pour l'après-midi, parce qu'à l'heure du repas, ils vont le retirer.
Bon, très bien. Avis à tous les parents, la rentrée, c'est donc lundi matin, 8h30. Courage à tous les parents et à tous les enfants. Et bravo et courage aussi au personnel enseignant et bien sûr aux soignants. Merci à tous les trois d'avoir été ce soir les invités d'Europe Soir.